France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Mais où est donc passée l'antimatière de l'univers? C'est l'une des plus grandes énigmes de la physique et la réponse à cette question réside peut-être dans une particule hypothétique, celle de Majorana. En 1937, le physicien fulgurant Ettore Majorana prédit l'existence d'une particule qui serait à la fois particule et sa propre antiparticule. Un an plus tard, à seulement 31 ans, il disparaît sans laisser de traces. Depuis les années 60, on redécouvre ses travaux et on tente de mettre la main sur une telle particule, comme avec l'expérience Super Nemo, lancée en 2025. Mais pourquoi tant d'efforts? Car ce serait une révolution cosmologique. Elle serait aussi une candidate excellente à cette mystérieuse matière noire. Mais pourquoi échappe-t-elle encore à toute détection? Particule, où es-tu, Majorana? Claudia Nonez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne expérimentale au sein du département de physique des particules de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA de Saclay. Stéphane Lavignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien théoricien CNRS à l'Institut de physique théorique au CEA de Paris, Saclay. Et nous sommes également en ligne avec Laurent Simard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay et vous êtes également responsable scientifique de l'expérience Super Nemo pour la France. Merci à vous trois d'être là avec nous en direct dans nos studios. Merci à vous également qui nous écoutez d'être là également avec nous en direct ou à toute heure en podcast. Et puis nous aussi, nous sommes à votre écoute, on peut échanger ensemble sur la plateforme Blue Sky. N'hésitez pas à nous y rejoindre, c'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors comment Ettore Majorana en est-il venu à prédire l'existence de cette particule? Comment vérifier expérimentalement sa théorie? Et pourquoi est-ce si compliqué? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, il faut poser les bases, Stéphane Lavignac, les bases de la physique des particules et du modèle standard. C'est des mots qu'on va prononcer tout au long de cette heure. Fermion, boson, on peut remettons les bases au goût du jour.
Oui, donc allons-y. Donc le modèle standard, c'est la théorie qui décrit les particules élémentaires et leurs interactions. Et il y a deux types de particules élémentaires, comme vous l'avez dit, les bosons et les fermions. Ce qui les distingue, c'est que les bosons ont la propriété de pouvoir occuper, plusieurs bosons peuvent occuper le même état quantique. Et c'est cette propriété qui explique, par exemple, la supraconductivité ou la superfluidité de l'hélium 4. Alors que les fermions, eux, ne peuvent pas occuper le même état quantique. On ne peut pas mettre deux fermions dans le même état quantique. C'est le fameux principe d'exclusion de Pauli, du nom du physicien autrichien Wolfgang Pauli. Et il se trouve que les interactions fondamentales sont dues à des particules médiatrices qui sont toutes des bosons. Alors l'exemple le plus connu, c'est le photon, la particule de lumière, le quantum de lumière. Et le photon, c'est le médiateur de l'interaction électromagnétique. Le photon n'a pas de charge électrique et il est sa propre antiparticule. On va y revenir tout à l'heure. Les fermions, eux, ce sont plutôt les constituants de la matière.
Tout à fait, voilà.
Alors parmi les fermions, il y a l'électron qu'on connaît bien. Il y a le proton et le neutron, qui ne sont pas des particules élémentaires, mais constituent même de particules élémentaires, qui sont des fermions et qui constituent le noyau de l'atome. Et pour faire un atome, il faut un noyau, bien entendu, et des électrons pour que l'atome soit neutre électriquement, puisque le proton a une charge électrique positive.
Voilà, là on a sous les yeux en tout cas un tableau, qu'on appelle en effet le tableau du modèle standard de la physique des particules. On vient de dire, voilà, les fermions constituent la matière, et on a voilà ce qu'on appelle aussi les antiparticules, c'est-à-dire que chaque particule fermionique est associée à son antiparticule.
Alors, toutes les particules en fait ont une antiparticule, certaines sont leurs propres antiparticules, je vais y revenir, mais l'antiparticule a la même masse que sa particule, mais elle a une charge électrique opposée. Par exemple, à l'électron est associée une antiparticule qu'on appelle positon en français. On dit souvent positron, c'est un anglicisme, mais bon, on n'y résiste pas. Et le positron a une charge électrique positive, opposée à celle de l'électron. Il a la même masse que l'électron. Certaines particules sont leurs propres antiparticules. Comme l'antiparticule à charge opposée de la particule, elles doivent être neutres électriquement. C'est le cas, par exemple, du photon. Et il se trouve que toutes les particules qui sont leurs propres antiparticules que l'on connaisse sont des bosons, comme le photon. Pour ce qui est des fermions, on n'en connaît pas pour le moment qui soit sa propre antiparticule. Alors ça vient du fait que, en général, les fermions ont une charge électrique différente de zéro. Mais il y a une exception, une particule dont on n'a pas encore parlé, qui est le neutrino, qui est aussi une particule de matière, bien qu'on ne la trouve pas dans la matière ordinaire. Elle est produite dans les désintégrations nucléaires, par exemple. Et le neutrino n'a pas de charge électrique. Donc la question se pose, il pourrait en principe être sa propre antiparticule, ce serait ce qu'on appellerait un fermion de Majorana, ou bien être différent de sa particule. Le neutrino et l'antineutrino pourraient être des particules différentes.
Les neutrinos, ces fameuses particules fantômes, très difficiles à détecter, on le verra. Alors cette idée, en effet, de particules de Majorana, eh bien, faisons un point sur le personnage également.
Ettore Majorana m'est tombé dessus alors que je commençais mes études de physique. On m'a parlé de lui en me disant qu'il avait été un surgénie, une sorte de physicien absolu, de la trempe de Galilée ou de Newton. Bien qu'il ait toujours cherché à rester dans l'ombre, il est devenu célèbre dans l'Europe scientifique des années 20. Mais dans la soirée du 26 mars 1938, il embarque à Naples à bord d'un navire en partance pour Palerme et se volatilise. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il avait 31 ans. Que lui est-il arrivé? La seule chose qui soit certaine, c'est qu'il a orchestré sa disparition, qu'il a volontairement brouillé les pistes au point qu'à ce jour, personne n'est parvenu à percer l'énigme. Aujourd'hui, 80 ans après sa disparition, certaines de ses théories fulgurantes demeurent d'actualité. L'une d'elles envisage l'existence de nouvelles sortes de particules, dites particules de Majorana. Existent-elles vraiment? Les physiciens ne le savent toujours pas. La détection de ces particules permettrait d'élucider certains mystères de l'univers. C'est pourquoi elles sont devenues un enjeu majeur de la recherche en physique.
Étienne Klein, dans le documentaire Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu sur France 5 en 2016. Claudia Nones, Ettore Majorana, il est né en 1906 à Catane, en Italie, dans une famille plutôt aisée, un père télégraphe. À cette époque, faut quand même dire qu'il se passe pas une semaine sans qu'il y ait de nouvelles découvertes sur l'atome. Et c'est un physicien qui baigne justement dans ce milieu-là.
Oui, tout à fait. Justement, il profite de cette communauté italienne qui s'est créée dans les cadres de la physique nucléaire. Et c'est un peu grâce à lui, à Fermi et les autres physiciens pour lesquels la physique nucléaire a pu avancer à cette époque. Et c'est effectivement à la suite des travaux de Dirac, comme on disait tout à l'heure, pour lesquels on savait que pour chaque particule de matière, il y avait sa propre antiparticule, qui à la suite... Du coup, Majorana a essayé de voir si on pouvait faire autrement dans cette théorie. Et c'est là que, du coup, il écrit son article en 1937, dans lequel, la première fois, il propose qu'il puisse avoir les fameux fermions de Majorana, pour lesquels, du coup, les neutrinos pourraient être sa propre antiparticule. Et pour la petite histoire, effectivement, Enrico Fermi cherchait de lui donner une position à l'université de Naples et lui a dit, écoute, pour pousser un peu ta candidature et te donner cette opportunité, il faudrait que tu écris quand même un article intéressant. Et aujourd'hui, effectivement, 88 ans après sa disparition, nous sommes toujours ici pour parler de cette théorie et du fait qu'il avait postulé pour la première fois les particules de Majorana.
Voilà, et comme vous dites, des décennies plus tard, en plus avec des moyens assez colossaux, on le verra, sur la tentative de détecter cette particule. Stéphane Lavignac, en effet, Ettore Majorana a fait des études d'ingénieur à Rome, il rencontre Emilio Assegré, qui aura plus tard le prix Nobel de physique en 1959, c'est lui qui identifie expérimentalement l'antiproton. On peut aussi rappeler le contexte très fructueux de la physique et de la physique italienne de l'époque.
Oui, c'est effectivement une époque bénie pour la physique, alors italienne et aussi européenne, et oui. Allemande, française. Beaucoup de très bons physiciens allemands. C'est l'époque qui voit émerger la physique quantique, avec des gens comme Schrödinger, Dirac, Heisenberg. et où on découvre beaucoup de nouvelles particules. Le proton est découvert par Rutherford en 1919. Le neutron est découvert en 1932 par Chadwick. Et on commence à mieux comprendre de quoi sont faits les atomes et comment, de quoi est constitué le noyau atomique après avoir fait beaucoup d'hypothèses qui maintenant sont invalidées. Et Dirac, lui, cherchait à écrire une équation relativiste compatible donc avec la relativité restreinte d'Einstein, une équation relativiste pour décrire l'électron, ce qu'on appelait l'équation Dirac. Et il se trouve que l'équation Dirac, quand on cherche ses solutions, elle a à la fois des solutions d'énergie positive, donc on est content, ça peut décrire l'électron, mais aussi des solutions d'énergie négative. Au départ, Dirac était un petit peu embêté par ces solutions d'énergie négative. Il pensait dire qu'elles n'étaient pas physiques, les rejeter. Et finalement, il évolue et il arrive donc en 1931, il écrit un papier là-dessus, à interpréter ces solutions d'énergie négative comme étant associées aux antiparticules. Alors, ça ne veut pas dire que les antiparticules ont une énergie négative, elles ont une énergie positive comme les particules, mais il arrive, au moyen d'une théorie un petit peu compliquée, qu'on appelle la mère de Dirac, à les interpréter comme étant des antiparticules. Donc, il prédit, en particulier, l'existence du positron, l'antiparticule de l'électron. C'est un papier de 1931. Et la chose absolument extraordinaire, c'est qu'en 1932, Carl Anderson observe le positron dans les rayons cosmiques. Et ça, je veux dire, c'est vraiment le genre de choses pour lesquelles on aime la physique et pour lesquelles on a envie de devenir physicien. Parce même si, bien évidemment, des découvertes comme ça, on n'en fait pas tous les jours, vous imaginez bien. Mais c'est quand même assez fantastique.
Et Carl Anderson, qui en plus est récompensé très rapidement par un prix Nobel en 1936, par justement cette prédiction vérifiée par ce physicien. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs qui nous écoutent, pour en savoir plus sur Paul Dirac, vous pouvez podcaster notre épisode Paul Dirac, l'entrée en antimatière. Par rapport, je rebondis aussi sur cette histoire de neutrons, Ettore Majorana. Stéphane Lavignac, Majorana prend connaissance des travaux des Joliot-Curie. Il a l'intuition de l'existence du neutron avant l'heure. Il aurait pu publier, mais il le refuse.
Oui, effectivement.
Ça aussi, c'est quand même assez étonnant dans la biographie de ce personnage historique.
Oui, c'est sans doute un peu lié à sa personnalité. Effectivement, il y avait plusieurs expériences, dont celle de Irène et Frédéric Joliot-Curie, qui observaient un nouveau type de rayonnement. Et au début, ils pensaient que c'était un rayonnement gamma, donc des photons, plus énergétiques que dans les expériences habituelles. Et en fait, Majorana comprend qu'en fait, il s'agit d'une particule neutre qui a à peu près la même masse que le proton. Et ce qui est effectivement le cas du neutron. Et il ne publie pas effectivement de papier là-dessus, mais très rapidement, Chadwick, qui a avant aussi de ses travaux, met en évidence expérimentalement, la même année, 1932, le neutron.
Voilà, et qui serait lui en plus nobelisé en 35. Voilà pour en effet le contexte bouillonnant scientifique de l'époque. Laurent Simard, donc on l'a dit, hein, Paul Dirac, sa célèbre équation en 1928. 1937, Ettore Majorana écrit cette théorie symétrique de l'électron et du positron. Il faut dire que Ettore Majorana, il n'aime pas cette théorie de Paul Dirac sur l'antimatière.
Oui, parce que c'est pour lui, il cherchait une solution symétrique, donc qui puisse contenir à la fois la matière et l'antimatière. Et donc, alors que dans l'équation de Dirac, au départ, il y avait des solutions, comme l'a dit Stéphane, qui étaient différentes pour la particule et l'antiparticule. Donc, ils sont, en fait, bon, c'est un peu compliqué, mais qui se sont conjugués. Et lui, il arrive à proposer ces solutions symétriques. Et donc, bien sûr, ces solutions ne vont pas pouvoir s'appliquer à l'électron qui est une particule chargée, donc il ne peut pas être identique à son antiparticule. Mais au neutrino, le neutrino étant la seule particule élémentaire neutre, le neutrino serait un bon candidat pour satisfaire à cette équation à ces solutions de Majorana. Donc, que Majorana a proposé dans son célèbre article de 1937.
Alors, Ettore Majorana va laisser donc une lettre d'adieu à l'âge de 31 ans.
Il disparaît. Mars 1938, il embarque sur un navire pour une liaison Naples-Palerme. Il se volatilise. Aujourd'hui, on découvre donc ses travaux. Et pourquoi les physiciens cherchent-ils désespérément à tout prix à détecter ce neutrino de Majorana? Restez avec nous, on poursuit notre quête.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Claudia Nonet, Stéphane Lavignac et Laurent Simard. Nous parlons de particules de Majorana. Un peu de physique des particules aujourd'hui. 1937, ce physicien propose une alternative à la théorie de Paul Dirac. Il n'aimait pas, justement, sa célèbre équation.
Le physicien Dirac s'est donné, vers 1930, la tâche de réconcilier les deux nouvelles théories de la physique, celle de la relativité d'Einstein, dans sa version de 1905, et celle de la physique quantique, si admirablement capable de décrire le mouvement des atomes et des molécules. Ces deux théories semblaient présenter des incompatibilités fondamentales. Il élabore alors une équation dans laquelle ces incompatibilités sont supprimées. Et il entreprend de résoudre cette équation et d'en analyser les solutions. Et là, c'est la stupéfaction. La boîte de Pandore, la caverne d'Ali Baba. Dirac dira plus tard, « Mon équation était bien plus savante que moi. » À cette époque, l'existence de l'électron, particule légère, possédant une charge électrique négative, était connue depuis une trentaine d'années. Dans son langage mathématique, l'équation de Dirac annonce l'existence d'une autre particule, sœur jumelle de l'électron, en tout point semblable, sauf sur un plan. Elle possède une charge électrique positive. On l'appellera positron ou anti-électron. C'est là le premier représentant d'une famille nombreuse constitutive de l'antimatière.
Un extrait de l'émission Dialogue du ciel et de la vie sur France Culture en 2006 et ce cher Hubert Reeves. Alors aujourd'hui au CERN, actuellement, on a un accélérateur de particules qui crée de l'antimatière, mais je reviens vers vous, Stéphane Lavignac en 1937, Ettore Majorana. Comment arrive-t-il finalement à sa théorie pour contredire Dirac?
Disons qu'il cherche effectivement à écrire une théorie compatible avec la relativité restreinte et compatible aussi avec la physique quantique, qui évite la présence d'états d'énergie négative. Donc c'est un peu difficile à expliquer mathématiquement, mais il retrouve en fait l'équation Dirac et il élabore une équation qui s'appelle l'équation de Majorana, et qui décrit un fermion qui est en fait sa propre antiparticule. Et il se rend compte assez rapidement que ça ne peut pas décrire à la fois l'électron et le positron, puisque ils ont une particule qui est sa propre antiparticule doit être neutre, évidemment. Mais il pense que ça peut s'appliquer au neutron, dont on ne savait pas à l'époque qu'il était en fait constitué de particules élémentaires plus petites et qui n'est pas sa propre antiparticule. L'antineutron est différent du neutron. Et il pense aussi à l'appliquer au neutrino. Et il a l'air très satisfait de penser qu'on peut décrire la désintégration bêta et dont on connaît deux versions, en fait, la désintégration bêta moins et bêta plus, avec simplement un neutrino sans avoir besoin d'introduire une antiparticule qui soit une particule différente.
On reviendra évidemment sur les conditions expérimentales pour tester justement cette désintégration bêta. Claudia Nonès, en tout cas, Ettore Majorana fait la conclusion que les fermions neutres pourraient être leur propre antiparticule. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est une recherche majeure en physique ?
C'est une recherche majeure en physique parce que d'abord, si le neutrino est égal à sa propre antiparticule, on met en question ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Donc on aurait quelque chose qui va au-delà du modèle standard, qui pourrait nous expliquer via des mécanismes des masses pourquoi la masse du neutrino est si faible. Et si on souhaite aller encore plus loin, on pourrait même arriver à expliquer pourquoi aujourd'hui on a beaucoup plus de matière que d'antimatière dans l'univers. Donc c'est une question que les physiciens aujourd'hui se posent après, comme on a dit tout à l'heure, des décennies après cette proposition par Ettore Majorana. Et on en parle parce qu'on n'a pas encore détecté les neutrinos de Majorana. Et c'est une recherche qui, effectivement, demande beaucoup d'investissement du point de vue expérimental pour pouvoir arriver à la détecter.
Stéphane Lavignac, justement, c'est quoi le problème avec ce grand problème de l'asymétrie matière-antimatière de l'univers et pourquoi justement détecter des neutrinos de Majorana, ça viendrait résoudre ce problème?
Alors ça se fait par l'intermédiaire d'un mécanisme pour lequel il faut peut-être que je parle avant de comment on engendre une masse pour un fermion de Majorana. On sait en fait que les masses des particules, je laisse pour le moment le neutrino de côté, mais les masses de toutes les particules massives du modèle standard sont engendrées par le boson de Higgs, par leur interaction avec le boson de Higgs. Si le neutrino est une particule, un fermion de Dirac, distinct de sa propre antiparticule, finalement c'est la même chose que pour l'électron. Sa masse va être engendrée par son interaction avec le boson de Higgs. En revanche, si c'est un fermion de Majorana, les choses sont plus compliquées. Son interaction avec le boson de Higgs ne suffit pas. Et il faut faire appel à un autre mécanisme. Le plus simple de ces mécanismes, qui nécessite d'ajouter des ingrédients au modèle standard, c'est ce que disait à l'instant Claudia. Le plus simple de ces mécanismes consiste à introduire un nouveau neutrino, un neutrino lourd, et qui est différent des neutrinos du modèle standard parce qu'il n'est pas sensible à l'interaction faible. Et n'étant pas sensible à l'interaction faible, il peut avoir une masse sans l'intervention du boson de Higgs. Donc c'est un neutrino lourd de Majorana. Et ce neutrino lourd de Majorana, il a aussi une interaction avec le neutrino standard et le boson de Higgs. Et via cette interaction, il va engendrer une petite masse pour le neutrino standard, qui est un fermion de Majorana. Et en fait, la masse du neutrino de Majorana standard, elle est en quelque sorte inversement proportionnelle à la masse du neutrino lourd. Plus le neutrino lourd est massif, plus le neutrino standard est léger. Donc, avec ce mécanisme, on résout en fait deux problèmes. On donne une masse, on engendre une masse pour un neutrino de Majorana, et on explique pourquoi la masse de neutrinos est beaucoup plus petite, par exemple, que celle de l'électron.
Sur la masse, la question de la toute petite masse de neutrinos, on y reviendra, mais je reviens sur mon souci de la symétrie matière-antimatière.
Alors, effectivement, j'ai fait ce petit détour parce que je vais avoir besoin de ce neutrino très lourd pour expliquer ça. Donc, on constate effectivement que l'univers est essentiellement fait de matière, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies ne contiennent quasiment pas d'antimatière. Et c'est quelque chose que le modèle standard de la physique des particules et de la cosmologie n'est pas capable d'expliquer. Donc on a besoin d'un mécanisme qui, dans l'univers primordial, engendre une asymétrie entre la matière et l'antimatière. Et c'est là que ces neutrinos lourds de Majorana peuvent nous aider. Ces neutrinos lourds, ils vont être produits en abondance dans l'univers primordial. Ils vont se désintégrer. Ils vont se désintégrer en électrons et neutrinos. Mais comme ce sont leurs propres antiparticules, ils peuvent se désintégrer aussi dans les antiparticules du neutrino électron et de l'électron, en antineutrino et en positron. Et si le taux de désintégration en particules et en antiparticules sont différents, il va pouvoir produire une asymétrie, c'est-à-dire produire plus de matière que d'antimatière. Que va-t-il se passer ensuite? Les particules, les antiparticules, par exemple, électrons et positrons vont s'annihiler jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus d'antiparticules et il ne restera que les particules, que la matière que nous observons dans l'univers actuel.
Voilà, ça, mettre la main sur une telle particule, ça nous permettrait donc de résoudre ce grand mystère. Ça permettrait, comme vous nous dites, d'être le signe, en tout cas, une mise en défaut du modèle standard de la physique des particules. Et Laurent Simard, ce serait aussi aborder la question de l'origine de la masse de neutrinos, hein, qu'on ne sait pas non plus expliquer. Parce qu'un neutrino, ça a une masse 1 million de fois plus petite que celle de l'électron. Et ça, on ne comprend pas pourquoi, pour l'instant.
Alors, exactement. Donc, si on compare les échelles de masse, donc, comme l'a dit Stéphane, ce qu'on avait comme théorie a priori, c'était que les masses étaient engendrées par interaction avec ce champ de Higgs, ce boson de Higgs, et on ne comprendrait pas pourquoi le couplage avec le boson de Higgs serait beaucoup plus faible pour le neutrino que pour l'électron ou d'autres particules qui sont encore plus lourdes. Et l'idée, c'est d'avoir cette particule. Si le neutrino est une particule de Majorana, il a un couplage différent. Il a une origine de masse différente, pardon. Et le fait qu'il ait une masse beaucoup plus petite que les autres particules justifierait pourquoi l'origine de sa masse serait différente et pourquoi il faudrait faire appel au neutrino de Majorana, à la théorie de Majorana, pour le décrire. Et donc ça, c'est un argument fort en faveur de du caractère Majorana du neutrino.
Ce serait aussi... Oui, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, Laurent Simard.
Juste un point, c'était d'un point de vue historique, c'est vrai que le neutrino a été introduit, au départ on a parlé de désintégration bêta, et justement le neutrino a été introduit pour expliquer pourquoi l'électron dans cette désintégration bêta avait un spectre continu et pas une raie, pas un pic. Parce qu'au départ, avant l'introduction de ce neutrino, par poly, on pensait qu'il y avait la désintégration bêta consistait en une désintégration avec l'émission d'un neutrino et le passage d'un noyau d'un état parent à un état fils. Mais dans ce cas-là, on attendrait un pic en énergie. Et ce n'était pas le cas. Et pendant longtemps, ça posait des problèmes aux physiciens. Et c'est poly qui a introduit ça comme un remède désespéré pour sauver la conservation de l'énergie et de l'impulsion en introduisant cette particule neutrino. Et oui. Donc après, comme on l'a dit, il était très difficile à détecter, donc il a fallu 26 ans après son postulat par Pauli pour qu'il soit détecté près d'un réacteur nucléaire.
C'est ça, voilà, une mise en évidence expérimentale qu'on a dû attendre, qui est arrivée en 1956 après avoir été prédit par Pauli en 1930. Autre raison de cette quête acharnée de cette particule de Majorana, Stéphane Lavignac, un bon candidat pour la matière noire. Dans quelle mesure, justement, cette particule-là, qui n'interagit pas avec la lumière, serait justement un candidat parfait?
Alors oui, effectivement, la matière noire doit pas, par définition, interagir avec la lumière et donc être électriquement neutre. Mais attention, les neutrinos standards, ceux que nous connaissons, ne sont pas de bons candidats pour la matière noire. Ça ne veut pas dire que ça peut pas être un fermion de Majorana,
mais un neutrino de Majorana, si, peut-être.
Non, parce que le problème, c'est pas tellement le fait qu'il soit Majorana plutôt que Dirac qui va aider ou poser problème. C'est le fait que un neutrino, le problème est plutôt lié à sa masse. Et en fait, si la matière noire c'était le neutrino, il faut savoir que la matière noire joue un rôle dans la formation des structures de l'univers. Et si la matière noire était un neutrino, on aurait moins de formation de petites structures que ce qu'on observe actuellement. Ça, ce sont les simulations numériques, simulations de formation des grandes structures, qui nous disent ça. On verrait des superamas de galaxies, mais moins de galaxies et encore moins de structures à plus petite échelle. Donc le neutrino n'est pas un bon candidat pour la matière noire, qu'il soit de Dirac ou de Majorana. Là, ça ne joue pas tellement de rôle.
Okay.
Et c'est pour ça d'ailleurs que la cosmologie, à travers l'observation des grandes structures de l'univers, met une bande supérieure sur la masse du neutrino. Parce que s'il était plus lourd, il constituerait une partie importante de la masse de l'univers et donc serait une partie importante de la matière noire. En revanche, donc ça, c'est le neutrino serait ce qu'on appelle un candidat de matière noire chaude. Le candidat préféré, c'est plutôt de la matière noire dite froide, comme dans le modèle standard de la cosmologie qu'on appelle lambda CDM. Et ça pourrait, cependant, être un fermion de Majorana. C'est tout à fait une possibilité, mais pas un neutrino, un autre fermion qui ne fait pas partie du modèle standard, qui serait sa propre antiparticule et qui pourrait donc s'annihiler avec lui-même jusqu'à ce que la densité résiduelle de matière noire dans l'univers corresponde à ce que nous disent les observations cosmologiques pour la matière noire.
Voilà, on vient de voir en tout cas tous les enjeux d'une telle recherche. Maintenant, comment tester le caractère de Majorana des neutrinos? La méthode la plus sensible pour tester leur existence et leur détection, c'est la recherche de la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Alors, en quoi ça consiste et quels sont les dispositifs expérimentaux? On continue notre track. Ça fait 3 semaines que nous l'avions en tête dans l'équipe. Il n'y avait pas de raison de ne pas partager ça avec vous. Alain Chamfort et son Manureva en direct sur France Culture, car nous parlons de Majorana et sa particule hypothétique en compagnie de nos 3 invités du jour. Claudia Nonès, physicienne expérimentale au sein du département de physique des particules de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEAD Saclay. Stéphane Lavignac, physicien théoricien CNRS à l'Institut de physique théorique au CEAD Paris-Saclay. Et Laurent Simard, enseignant-chercheur au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay. On vient de voir qu'en 1937, le physicien Ettore Majorana proposait que certains fermions neutres soient leurs propres antiparticules. Comment déterminer la nature du neutrino et s'il est de Majorana, comment sa détection viendrait-elle éclairer les causes du déséquilibre matière-antimatière de l'univers? On vient d'en parler, mais maintenant, comment tester le caractère de Majorana des neutrinos?
En premier lieu, le neutrino doit être électriquement neutre. En second lieu, son moment angulaire doit être égal à 1/2 en unité élémentaire. En troisième lieu, il doit avoir une masse égale à 0 ou tout au plus égale au millième de la masse de l'électron. Ces caractéristiques ne sont pas extraordinaires. On connaît déjà une autre particule sans charge électrique, le neutron par exemple. L'électron, comme le proton et le neutron d'ailleurs, a lui aussi un moment angulaire égal à 1/2. Et la masse du photon est, elle aussi, nulle. La seule particularité vraiment originale du neutrino est la faiblesse de son interaction avec la matière. Évidemment, il doit bien avoir une certaine faculté d'interaction, sans quoi il ne pourrait pas être produit. D'après les taux des désintégrations produites par des neutrinos tels qu'on peut les observer, il est possible de dire que des neutrinos à ce degré d'énergie peuvent traverser en moyenne 10 milliards de kilomètres de plomb sans réagir avec les atomes. C'est cette faiblesse d'interaction du neutrino qui caractérise le problème de sa détection expérimentale. D'un côté, la mise en évidence du neutrino est rendue bien plus difficile puisqu'elle ne peut se faire que par son interaction avec la matière. Mais d'autre part, elle est aussi facilitée car il est aisé d'intercepter toutes les autres particules par une épaisseur de matière suffisante pour ne laisser passer que les neutrinos. Toutes les réactions qui mettent en cause des neutrinos sont caractérisées par leur rareté, la lenteur de leur réalisation, c'est-à-dire par la très faible probabilité qu'elles ont de se produire. Pour cette raison, on les appelle des interactions faibles.
Un extrait de l'émission Université radiophonique et télévisuelle internationale sur la RDF en 1963. Claudia Hanonès, avant de parler des neutrinos de Majorana, déjà détecter des neutrinos tout court, c'est pas facile.
Exactement, c'est une particule qui nous échappe facilement, pour lesquelles du coup on doit prévoir des détecteurs extrêmement sensibles. Et pour ce qui concerne mes activités, on travaille du coup dans des laboratoires souterrains. Ça peut être à Modane, entre l'Italie et la France, ou en Italie, au laboratoire souterrain du Grand Sasso. Et on a besoin justement de se protéger des toutes particules qui viennent de l'atmosphère, de l'univers, pour vraiment arriver au but de notre recherche et trouver la désintégration bêta sans émission des neutrinos qui pourrait répondre à cette question si les neutrinos est égal à sa propre antiparticule.
Pour les neutrinos tout court, toujours, Laurent Simard, on a besoin donc de détecteurs sensibles, mais on a aussi besoin de dispositifs gigantesques. On peut penser au super Kamio Kande au Japon, l'expérience Antares en Méditerranée à Toulon, ou même l'expérience Ice Cube en Antarctique.
Oui, c'est vrai que, comme on l'a dit, le neutrino, c'est une particule qui n'interagit que par interaction faible, donc ce qui explique la très grande difficulté qu'on a à le détecter. Donc, d'une part, il faudra des flux intenses, soit créés par le Soleil, l'interaction de particules cosmiques avec l'atmosphère, ce qui donne des neutrinos atmosphériques, des neutrinos de supernova, des neutrinos produits par des réacteurs ou produits par des accélérateurs, des particules qui interagissent sur des cibles. Et en plus de cela, il faut des détecteurs gigantesques. On peut penser à Super Kamio Kande qui vaut 50 000 tonnes d'eau. Donc, c'est des détecteurs gigantesques pour en détecter quelques neutrinos par an. C'est pour ça que les expériences durent très longtemps, plusieurs années. On peut penser à l'expérience de Ray Davis, qui est la première à avoir mis en évidence des neutrinos solaires, qui a duré 24 ans. Donc, c'est des expériences vraiment très très longues où on détecte quelques événements par an. Et donc, d'où aussi une chose importante, c'est de s'affranchir de tout le bruit de fond ambiant. Et le bruit de fond ambiant peut venir, comme l'a dit Claudia, des particules cosmiques, mais peut provenir aussi de la radioactivité naturelle. Et donc, il faut voir, par exemple, pour citer un chiffre de nous, dans l'expérience SuperNemo, les contraintes qu'on va avoir sur la radioactivité d'un isotope, la radioactivité naturelle, qui est le thallium-208, sont de l'ordre de quelques millionièmes de désintégration par seconde, par kilogramme de source. Et à comparer, par exemple, au corps humain qui est en potassium-40, donc c'est pas le même isotope, mais qui émet 70 désintégrations par seconde par kilogramme de corps. Donc c'est vraiment des niveaux de radioactivité ultra faibles, parce que si on revient pour donner un chiffre aussi sur cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos, qui n'a jamais été observée jusque-là, on a des limites expérimentales qui ont des demi-vies de l'ordre de 10 puissance 24 à 10 puissance 26 années, donc largement plus grandes que l'âge de l'univers. Donc, il faut imaginer que si on faisait l'expérience même pour une durée qui durait l'âge de l'univers, avec un seul noyau, on ne la verrait pas. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de détecteurs avec des grandes masses d'isotopes et le bruit de fond, les processus parasites au niveau le plus faible possible et l'efficacité de détection là, optimale.
Alors, tout de suite, rentrer dans le détail, en tout cas pour ce qui est des détecteurs de ces installations immenses qui tentent d'observer indirectement les neutrinos. Pareil, rendez-vous sur l'application Radio France pour notre épisode Neutrinos, particules élémentaires, mon cher Watson. Et là, Laurent Simard, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail et peut-être essayer de faire comprendre à nos auditeurs, parce que voilà, qu'est-ce que ça signifie une double désintégration bêta ?
La double désintégration bêta, c'est une désintégration. Alors, si je reviens déjà à la désintégration bêta simple, donc c'est un noyau parent qui se désintègre en noyau fils en émettant un électron et un antineutrino. Ça, c'est la désintégration bêta moins. Mm-hmm. Et double désintégration bêta, donc c'est dans un même noyau la désintégration simultanée de deux neutrons en deux protons, avec l'émission de deux électrons. Et alors, on a deux types de double désintégration bêta. Il y a la double désintégration bêta avec émission de neutrinos. Dans ce cas, on a deux électrons, deux antineutrinos qui sont émis. Cette désintégration a été observée. Elle est autorisée dans le cadre du modèle standard, mais elle est rare. Et les demi-vies sont là de l'ordre de 1818 à 1821 années. Et en revanche, la double désintégration sans émission de neutrinos, dont l'observation prouverait que le neutrino est une particule de Majorana, n'a jamais été mise en évidence. Et donc, on a des limites qui dépendent des isotopes avec lesquels on recherche cette double désintégration bêta. Et ces limites sont de l'ordre de 10 puissance 24 à 10 puissance 26 années, typiquement suivant les isotopes.
Stéphane Lavignac, en effet, cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos, c'est celle-ci qu'on cherche.
Oui, tout à fait, parce que il faut expliquer donc comment c'est possible. Donc, comme l'a dit Laurent, la double désintégration bêta avec émission de neutrinos, c'est simplement deux désintégrations bêta qui arrivent dans un noyau qui ne peut pas avoir une désintégration bêta simple. Et dans le cas de la double désintégration bêta sans émission de neutrinos, ce qui se passe en fait, c'est que vous avez le noyau qui va émettre un électron et un antineutrino, ça c'est ce qu'on aurait si on avait une désintégration bêta simple, mais l'antineutrino qui a été émis, il est immédiatement réabsorbé par le même noyau, mais il est réabsorbé en tant que neutrino. Parce qu'en absorbant un neutrino, le noyau va être capable d'émettre un électron. On aura donc deux électrons émis, on aura changé de noyau, comme l'a dit Laurent, on aura deux protons qui auront été transformés en deux neutrons, mais on aura deux électrons émis et pas d'antineutrino, parce que l'antineutrino émis a été réabsorbé, mais comme neutrino. Et ça, c'est évidemment possible que si le neutrino a la même particule que l'antineutrino.
Voilà, alors depuis les années 60, plusieurs groupes ont traqué cette fameuse double désintégration bêta sans neutrino, sans succès. Alors pour traquer cet événement rare, on a eu plusieurs expériences qui se sont succédées. Il y a déjà eu l'expérience NEMO qui a existé pendant une vingtaine d'années. NEMO 1, 2, 3, aucune double désintégration sans neutrino, mais les physiciens n'ont pas dit leur dernier mot. Laurent Simard, voici Super NEMO, lancé en 2025. Et vous nous avez un peu déjà décrit le dispositif, la machine, l'instrument. On est enfoui sous 1700 mètres de roche, hein, c'est ça, en Savoie, pour se protéger des muons, ces particules cosmiques, mais pas seulement.
Oui, exactement. Donc, on est dans le laboratoire souterrain de Modane, entre la France et l'Italie, sous 1700 mètres de roche. Donc, le fait d'être sous ce blindage naturel réduit d'un facteur de l'ordre d'un million le flux de particules cosmiques. Donc, ça, c'est déjà une chose importante et nécessaire pour ce type d'expérience. Mais ensuite, il faut que les matériaux soient le moins radioactifs possible. Parce qu'il faut imaginer que dans les taux de double désintégration bêta sans émission de neutrinos sont très faibles. Donc, n'importe quel processus de radioactivité ambiante pourrait contribuer. Donc, ce processus n'émet pas directement deux électrons au départ, si c'est une désintégration qui émet, par exemple, un électron et puis après un gamma, ce gamma peut interagir, par exemple, avec la matière pour produire, par effet Compton, un autre électron. Donc, on aurait ces deux électrons émis. Et donc, on a des contraintes très fortes sur tout ce qui est radioactivité. Donc, il faut que les composants du détecteur soient sélectionnés, mesurés, pour s'assurer qu'ils ont vraiment ce niveau très faible de radioactivité. On a notamment développé un détecteur qui était en laboratoire souterrain à Canfranc, entre la France et l'Espagne, qui mesurait la radioactivité des feuilles sources. Parce que, donc, j'ai pas précisé, ouais, le détecteur, la spécificité du détecteur NEMO, c'est qu'on a une feuille source susceptible d'émettre cette double désintégration bêta, très fine, de façon à laisser sortir les électrons qui ont une faible énergie. Puis, on a un détecteur de traces qui va permettre de reconstruire la trajectoire des électrons. Et enfin, un calorimètre qui permet de mesurer l'énergie des électrons. Et donc, la spécificité de NEMO, des expériences NEMO, c'est vraiment d'avoir cette reconstruction topologique des événements. On reconstruit vraiment les trajectoires des électrons et ça permet non seulement de rejeter des processus de bruit de fond puisqu'on pourra distinguer l'interaction d'un électron et l'interaction d'un gamma, mais ça permet également, alors ça c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais si on observe cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos, ça prouve que le neutrino de Majorana, mais il peut y avoir plusieurs mécanismes qui génèrent cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos.
Quels sont ces autres défis technologiques pour la détection des particules de Majorana? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, nous parlons d'Ettore Majorana et l'hypothétique particule de Majorana. On vient de parler de l'expérience lancée à la mi-octobre 2025, l'expérience Super Nemo, qui ouvre grand les yeux sur la double désintégration bêta. Avec vous, Claudia Nonès, il y a aussi ce deuxième démonstrateur testé à Modane, qui va passer à Grande Sazo. C'est Cupide. Alors, quelle est la spécificité de ce détecteur, les différences entre Cupide et Nemo, leur complémentarité?
Tout à fait. Exactement. À côté des Nemo, on a pu amener un autre démonstrateur qui s'appelle Cupide, ou Cupidon en français, pour lesquels, effectivement, nos types de recherches sont complémentaires à celles qui viennent d'être décrites par Laurent. Nous, on regarde pas la trace des électrons qui sort. Mais on se focalise sur l'énergie qui est relâchée lors de la désintégration bêta dans des cristaux. Du coup, on utilise un détecteur qui est beaucoup plus compact, qui a une résolution énergétique meilleure, parce qu'effectivement, du coup, on cherche une ligne, une énergie bien donnée. Et si on voit cette ligne dans notre spectre en énergie, on pourra conclure d'avoir vu cette désintégration bêta. Donc, comme vous avez dit, on a fait un premier démonstrateur à Modane où on avait une vingtaine de cristaux. Donc, c'est quelque chose qui fait quelques litres en volume. Et on refroidit ces cristaux à des températures très, très faibles, proches du zéro absolu. Et là, on va passer à l'étape d'après. Du coup, on va passer des 20 détecteurs à 1500 qui seront installés plutôt du coup en Italie, où on a déjà l'infrastructure cryogénique qui nous attend, pour essayer d'augmenter la sensibilité à cette recherche et enfin trouver cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos.
Ah oui, c'est un passage à très grande échelle. Donc.
Tout à fait.
Mais ce qui est étonnant, c'est que de la même façon que pour le boson de Higgs, prédit en 1964, détecté seulement en 2012, on a construit le LHC pour le traquer spécifiquement. J'ai l'impression dans cette histoire, Claudia Nonès, que Super Nemo, Cupide, Cupidon, c'est pareil. Là, c'est construire la machine qui va permettre de donner la désintégration que vous souhaitiez trouver.
Oui, exactement, c'est ça. Et si la nature est gentille, peut-être avec ces expériences, on pourra la trouver. Sinon, il faudra aller à l'échelle encore après. Et du coup, ça, c'est un avantage des calorimètres, des cristaux, parce que du coup, on pourra augmenter la taille de notre expérience, ajouter des isotopes et augmenter la probabilité de trouver cette désintégration.
Et si on est négatif, pessimiste, Stéphane Lavignac, à l'inverse, si on n'arrive jamais à détecter un neutrino de Majorana, déjà, à quel moment on abandonne? Et puis, quelle implication pour la physique?
Alors, à quel moment on abandonne, c'est difficile à dire.
Parce que le boson de Higgs, on a failli... ça a été si long que s'en a désespéré plus d'un.
Non, pas tout à fait, parce que en fait,
on s'attendait à le trouver, mais oui, ça a été long, très long, comme les ondes gravitationnelles.
Il y avait une sorte de, enfin, des théoriciens avaient élaboré une sorte de Nolou's théorème pour l'LHC qui disait que l'LHC devait nécessairement, pour des raisons de contrainte de la théorie en fait, soit trouver le boson de Higgs, soit s'il n'existait pas, observer de nouvelles résonances. Mmh. À haute énergie. C'est la cohérence de la théorie qui disait ça. Donc le LHC était vraiment la machine idéale. Je ne pense pas que les théoriciens se soient désespérés, ni les expérimentateurs. Pour la double désintégration bêta, effectivement, le problème vient peut-être du fait que on n'a pas d'expérience qui nous permette de démontrer que le neutrino n'est pas une particule de Majorana. On a un signal, qui est la double désintégration bêta sans émission de neutrino. Soit on l'observe et donc on en conclut que le neutrino est une particule de Majorana. Soit on ne l'observe pas et en fait ça pourrait nous dire que les paramètres du neutrino, sa masse et d'autres paramètres, sont tels que l'expérience n'est pas assez sensible et qu'il faut une expérience encore plus grande. Voilà, donc...
Et que tout résultat en physique expérimentale, qu'il soit négatif ou positif, est une avancée de toute façon. Nous sommes arrivés au bout de cette discussion. Merci, un grand merci à vous trois. Car là, tout de suite, on retrouve la chronique Avec Science, qui se penche sur l'Australopithèque Little Foot. C'est une chronique signée Alexandre Morales. Merci.
Comment reconstituer des fossiles brisés comme la face de l'Australopithèque Little Foot, en français petit pied. Alors, Little Foot, c'est d'abord un pied, d'où son nom, découvert en 1997 sur le site de Sterkfontein en Afrique du Sud. Et puis, après 20 ans de fouilles, les archéologues ont mis au jour le reste du squelette, daté de 3,7 millions d'années. C'est le plus ancien d'Afrique australe, mais aussi le plus complet du genre Australopithecus, auquel appartient aussi la fameuse Lucie. À titre de comparaison, on possède 90% du squelette de Littlefoot contre 40% de celui de Lucie. Alors, le genre Australopithecus est important, hein, puisque pendant 2 millions d'années, il a connu un grand succès évolutif en Afrique. On retrouve plusieurs espèces dans ce groupe, dont l'une serait probablement à l'origine du genre Homo, le nôtre, mais on ignore encore laquelle. Le problème avec ce fossile exceptionnel qu'est Littlefoot, c'est que sa face est partiellement écrasée et que ses os sont brisés. Un véritable casse-tête de reconstitution auquel une nouvelle étude propose une solution. Elle est publiée dans la revue en accès ouvert, compte rendu Palévol. Amélie Baudet, chercheuse CNRS au laboratoire Palévoprime de Poitiers et autrice principale de l'article.
L'individu de Littlefoot est probablement tombé dans la grotte et est décédé des suites de sa chute. Et parce qu'on est dans un contexte de grotte, finalement, on a cette fossilisation qui se met en place. Alors on pense qu'il y a probablement aussi un processus de momification qui fait que ce squelette, quand on l'a retrouvé, il était presque en connexion. C'est-à-dire que les os, on pouvait suivre vraiment les os du squelette les uns après les autres. Les sédiments se sont empilés au-dessus de son corps jusqu'à complètement remplir la grotte. Et le poids des sédiments va malheureusement endommager le squelette. Et c'était notamment le cas pour son crâne. Et en fait, c'était la difficulté, un peu l'enjeu pour nous, parce que ce spécimen, il est exceptionnel, mais en l'état, on ne pouvait pas étudier la face. On avait besoin de passer par une étape de reconstruction pour pouvoir voir à quoi ressemblait cette face et comment on peut la comparer à d'autres spécimens et ce qu'on peut en tirer comme information sur l'évolution du crâne dans la lignée humaine.
On parle bien de face parce que sur des fossiles aussi vieux, il ne reste aucun tissu mou, seulement des os. On est donc très loin de pouvoir reconstituer un visage. Mais la face peut nous en apprendre beaucoup. C'est le siège de la vue, de l'olfaction, de l'alimentation, mais aussi des fonctions sociales. Et puis, la face nous donne aussi des éléments sur les liens de parenté évolutive, puisqu'elle a beaucoup changé au cours des millénaires. Alors, comment ont-ils reconstitué cette face? Eh bien, ça n'a pas été une mince affaire. D'abord, pour ne pas abîmer le spécimen, il a fallu numériser les os. Le processus a commencé en 2016, mais aucun scanner à Johannesburg n'a pu fournir une résolution suffisante pour les besoins de l'étude. Les scientifiques ont donc décidé de transporter les fossiles jusqu'au synchrotron Diamond Light Source en Angleterre. Et cet outil de pointe a permis de faire des coupes virtuelles du fossile de 21 microns d'épaisseur, une précision absolument formidable. Après des années de traitement informatique de la montagne de données produites, les scientifiques ont enfin pu proposer un assemblage de tous les os de la face de Littlefoot.
Tout d'abord, ce qui nous a vraiment frappé quand on a terminé notre première reconstruction, c'était vraiment la taille des orbites de Littlefoot. Donc ces orbites, ils sont très hautes et vraiment en termes de proportion, on voit bien que les orbites occupent une grande place. Et ça, ce serait aussi cohérent avec une étude précédente qu'on a publiée en 2019 qui était centré sur les empreintes du cerveau de Littlefoot qui étaient conservées dans l'os. Et on a pu voir à ce moment-là que l'aire visuelle du cerveau était extrêmement développée par rapport à la nôtre. Et on pense que la vision était effectivement un sens vraiment important à cette période-là. Donc ça peut être lié à l'environnement changeant, la capacité de trouver sa nourriture. Donc là, on est vraiment sur du spéculatif. Mais pourquoi pas penser à cette fonction, cette adaptation qui aurait pu jouer un rôle pour Australopithecus à cette période.
Les scientifiques mettent en avant un deuxième résultat qui concerne les dynamiques de migration. Ils ont retrouvé des ressemblances morphologiques avec d'autres spécimens d'Afrique de l'Est de la même période et chez leurs descendants. Mais ces caractères ne semblent pas avoir perduré chez la descendance sud-africaine des congénères de Littlefoot. Bien que les échantillons soient très réduits, on peut quand même remarquer des dynamiques évolutives qui varient selon les régions, ce qui permettra peut-être d'affiner notre compréhension de l'origine de notre propre espèce. Quant à Amélie Baudet et ses collègues, ils s'attaquent maintenant à la reconstitution du reste du crâne de Littlefoot. Ils espèrent ainsi pouvoir étudier les marques que son cerveau a pu laisser sur l'intérieur de sa boîte crânienne.
Merci Alexandre pour votre chronique. Comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des Humains.
Non, la femme préhistorique n'était pas qu'une figure silencieuse près du feu. Entre les bras musclés des néandertaliennes et les tombes de guerrières, l'archéologie révèle une réalité bien plus complexe. La préhistoire n'a jamais été un monde d'hommes seul, mais une histoire à réécrire, sans les lunettes sexistes du 19e siècle, période où la femme était considérée comme inférieure à l'homme, et ce, par nature. Aucune preuve archéologique n'exclut la participation des femmes à toutes les tâches. Que ce soit la construction des habitats, la collecte et la cueillette, le traitement du gibier, dépeçage, cuisine, peau, et même la participation à la chasse aux petits, mais également aux grands mammifères. Quant à la confection d'armes ou de parures, la taille de l'os ou de la pierre nécessite de l'habileté, pas de la force physique. Pareil pour peindre les grottes. D'ailleurs, l'étude des squelettes de néandertaliens de sexe féminin montre souvent un bras avec une attache musculaire comparable à celle des hommes. Autrement dit, les femmes, elles aussi, pouvaient effectuer des activités nécessitant une certaine force musculaire. Et ce n'est pas tout. Des découvertes ont remis en question le statut des femmes, pensée subalterne, a priori. La femme de Cavillon, présentée au Musée de l'Homme à Paris, en est un exemple frappant. Cette sépulture contient un squelette paré de bijoux avec un os et une gravure de cheval. Une belle tombe de l'époque de Cro-Magnon. À sa découverte, les préhistoriens ont pensé qu'un homme était enterré. Il a été nommé homme de menton. Mais l'étude détaillée du bassin a démontré sans conteste qu'il s'agissait en fait d'une femme. Un autre exemple, plus récemment encore, à l'aide de l'ADN, il a été montré que la tombe d'un guerrier viking était celle d'une femme. Alors, ne tombons pas non plus dans le stéréotype inverse sous prétexte de réhabiliter la femme préhistorique trop souvent ignorée. Comme le dit ma collègue Aline Thomas, les rôles sociaux en général et genrés en particulier laissent peu de traces dans les sociétés sans écriture. Mais il est possible de retracer dans les eaux une partie des activités physiques comme le lancer d'une arme de jet comme nos javelots actuels. Et là, les études montrent une division sexuelle pour cette activité. Les femmes ne lançaient pas. Ce qui ne prouve cependant pas que les femmes ne participaient pas à la chasse, car il y a d'autres manières de tuer les animaux. Ainsi, la division sexuelle des activités est ancienne, visible dès le paléolithique, donc avant l'émergence de l'agriculture, et elle semble universelle. Est-elle liée à un statut différent ? Impossible à savoir. Mais c'est seulement à partir du néolithique que l'on voit apparaître des différences importantes de statut dans des sépultures qui distinguent parfois très nettement les hommes des femmes. Alors, rappelons-le, si des différences entre femmes et hommes existent bien, elles n'impliquent pas automatiquement de l'inégalité.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la technique, c'était Éric Perruchot-Triboulet, à la réalisation Olivier Bétard, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.